أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله، سيدنا حبيب الله، سيدنا خير خلق الله، عليه وعلى آله وصحبه وكل من والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous allons continuer بحول الله وقوته. Le commentaire de Matn de l'imam al-Tahawi rahmahullah ta'ala. Nous sommes arrivés de qawli al-shaykh rahmahullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa inna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu al-Mustafa wa nabiyuhu al-Mujtaba wa rasuluhu al-Murtada wa inna wa khatamu al-anbiya wa imamu al-atqiya wa sayyidu al-mursalin wa habibu رب العالمين وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصل من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر ومن وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. Donc, inshallah, nous allons essayer de commenter ce passage que je viens de lire. Donc, Cheikh Rahmallah Ta'ala commence par parler, et c'est dans ce passage-là, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les prophètes. Comme nous l'avons dit dans l'introduction de la Tahawiyya, que tous les savants de la croyance, spécialistes de la science de la croyance, ont dit que la croyance est trois choses. Premièrement, tout ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, ce que nous devons lui attribuer, ce que nous n'avons pas le droit de lui attribuer, et ce qui est de l'ordre de l'autoriser. C'est-à-dire, la réaction, al-hadith, notre existence n'est pas une obligation, Allah n'est pas obligé de nous créer. C'est-à-dire, il voulait, il a fait ce qu'il voulait, et, aucune question ne peut être destinée à Allah Azza wa Jalla en disant il est de ton devoir de faire ou de ne pas faire. Ensuite, la croyance qui concerne les prophètes. Tout ce qui concerne les prophètes, ce que nous devons leur attribuer, ce qui est interdit et ce qui est de l'ordre d'autorité des prophètes. Le troisième chapitre de la croyance, c'est le monde de l'au-delà. Le paradis, l'enfer, le jugement dernier, la résurrection, l'homme au qiyama, les signes de fin des temps, al-maut, la mort, le châtiment dans la tombe, etc. Donc, ces trois grands chapitres de la croyance, le musulman doit les connaître. Alors, quelques savants ont rajouté un quatrième chapitre, à savoir tous les sujets qui touchent à la croyance à travers les temps, bien sûr, à chaque fois qu'il y a un courant de philosophie ou une religion qui attaque la croyance musulmane, donc sa réfutation devient une obligation qui devrait être inscrite dans le dernier chapitre. Car à travers les temps, on observe qu'il y a des groupes, des courants, des croyances, des religions, des philosophies qui inventent des croyances et qui remet en cause des principes de la foi musulmane. Donc ces chapitres-là on est dans l'obligation de les traiter, de les réfuter et de montrer, de démontrer aussi par argumentation rationnelle et par le texte la croyance et la foi musulmane sur ces questions-là. Donc voilà grosso modo les grands chapitres de la croyance. Là, Cheikh Rahmallah Ta'ala, il commence à traiter, à parler des prophètes. Bien sûr, il va revenir un peu plus tard, chaque savant à sa méthodologie, il va revenir et parler un peu de quelques attributs, l'attribut de l'unicité. Juste après ce chapitre-là, il va parler du fait que les musulmans verront Allah subhanahu wa ta'ala le jugement dernier. Puisque c'était des sujets à polémique à leur époque entre les sunnites et les mu'tazilites. Alors, Cheikh, qala rahmallah, wa inna Muhammadan abduhu al-Mustafa. Donc, on a parlé du nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Rasulullah. Ce nom-là, on a dit qu'il n'a pas été connu en arabie à l'époque. Et on a parlé dans la dernière fois pourquoi son grand-père, il a choisi ce nom-là, etc. On ne va pas revenir sur cette question. Donc, il est l'élu, le choisi, le bien-aimé, l'ultime. Il est l'ultime. C'est pas qu'il est dernier. Quand on dit l'ultime, c'est-à-dire déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet univers pour Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on a rapporté le hadith rapporté par l'imam Ibn Jawzi dans le Wafa bi Hukm Mustafa, rapporté aussi par Ibn Taymiyyah dans le Fatawa al-Kubra, par deux chaînes de transmission différentes, rapporté par l'imam Qastallani, le Mawahib al-Dunya, etc. Où Sayyidina Adam, quand il a commis le péché, il a demandé à Allah Azza wa Jalla le pardon par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les anges lui ont dit, il y a Adam, comment tu demandes à Allah Azza wa Jalla de te pardonner par une créature que tu n'as pas connue, n'est pas encore créée. Et on a dit que Sayyidina Adam, il a dit, j'ai vu écrit, c'est écrit sur l'arche, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et je sais qu'Allah Azza wa Jalla ne mettra jamais un nom devant le sien si cette créature n'a pas de grande valeur. Il n'y a aucun nom qui peut se mettre devant celui d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est celui de Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au miftah al-Jannah, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Qui oserait mettre son nom devant celui d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc la clé du paradis, c'est La ilaha illallah Sidna Muhammadun Rasulullah. Donc Allah Azza wa Jalla a pardonné à Sidna Adam par cela. Et la réponse d'Allah Azza wa Jalla à Adam, Sayyidina Adam, était « Na'am ya Adam, wa li ajlihi khalaqtu » Même toi, je t'ai créé pour lui, à cause de lui. Tout cet univers-là a un haqq envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a un droit envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, quand on lit le livre de l'imam Al-Qadariyar, الشفاء في حقوق المصطفى. Que nous devons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a des droits envers nous. Donc je disais que Sidna Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous lui devons énormément de choses et il a des droits envers nous et nous avons des devoirs envers lui. Comme si vous prenez un cercle et vous mettez un point sur le cercle et vous allez sur ce cercle-là et vous faites le tour du cercle, vous allez constater que le point est le début du cercle et la fin du cercle aussi. Vous allez revenir au point. Donc, c'est dans la Sourate sallallahu alayhi wa sallam. Il est l'ultime, pas le dernier. Mais de lui, ça a commencé et en lui, ça va finir. Donc, il n'est pas, il est le dernier. Il a clôturé la prophétie. Celui qui a clôturé la prophétie. Khatamul Anbiya. Et comme on va parler l'imam Tahawi rahmallah, il n'y a pas de prophète après Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui prétendent la prophétie après lui, ce sont des menteurs, des kuffars. Maqala Shaykh rahmallah, wa innahu khatamul Anbiya. Il est l'ultime des prophètes. Et combien de prophètes dans l'histoire de l'humanité, à distinguer prophètes et messagers, il y avait 124 000 prophètes. Et combien de messagers, il y a une petite divergence entre les savants, entre, il y en a ceux qui disent 114, il y en a ceux qui disent 315. La différence entre un messager et un prophète, chaque messager reçoit un message, reçoit des livres, reçoit des feuilles, reçoit des tables. C'est-à-dire, il a un texte qu'il devrait transmettre. Il a une jurisprudence qui peut ne pas être la même avec le prophète de son époque ou bien le messager qui l'a précédé. Ce qui est interdit chez un messager peut ne pas l'être chez un autre. La façon de prier, la façon de jeûner, la façon de l'aumône, les interdictions, la jurisprudence peut ne pas être la même entre les prophètes. Ce n'est pas un problème. Et l'Arjun nous l'a dit, il faut qu'on qu'il nous a autorisé des choses qui ont été interdites pour nous précéder. Ça, dans les questions de la jurisprudence, mais dans les questions de croyance, on a apporté le même message, à savoir l'unicité de l'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je disais que la différence entre le messager et le prophète, c'est que le prophète n'a pas de message écrit qui devrait le transmettre. Par contre, le messager doit transmettre des textes. Donc, on a 314 ou 315 messagers. Il y en a 25 qui sont cités pour Coran Karim. Donc, il faut connaître leur nom par cœur. Et on a 124 000 prophètes. 124 000 prophètes. Comme le rapport des Ahadiths. Donc le prophète, quand il reçoit donc le idn ou l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le wahy, il est dans l'obligation de soutenir un messager ou de son époque. Alors il peut avoir une jurisprudence spécifique à lui et à sa famille seulement, mais la jurisprudence qui est prise en considération, c'est celle du messager. Pour cela, la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah azza wa jal a garanti la protection du Coran Karim jusqu'à la fin des temps. Donc il n'y aura aucune autre jurisprudence, aucune autre révélation, aucun messager après Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa nasruhu li shar'i ghayrihi waqa' hatman adallallahu man lahu mana' kama qala sahib al-jawhara al-imam al-laqani rahimahullah. Donc la jurisprudence musulmane, elle a abrogé toutes les autres jurisprudences. Elle les a abrogées. Non. Le Coran Karim, c'est un texte que Allah Azza wa Jal a garanti sa protection. Donc, il n'y aura aucun autre texte qui viendra après le Coran Karim, puisque Allah Azza wa Jal, le prophète, le dernier des prophètes par révélation, a le Sheikh Rahmallah, wa innahu khatamul anbiya'i, c'est l'imam des pieux. Et on sait tous que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne de la Mecque vers Al-Quds, il a prié et tous les prophètes ont prié derrière lui. L'imam, l'anbiya et l'atqiya. Ou le Seyyid al-Mursalim sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, سيد المرسلين كما قال سيد ولد آدم ولا فخر نعم c'est-à-dire qu'il est la meilleure des créatures صلى الله عليه وسلم إذن الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشر وخير الخلق il est rapporté dans le musnad d'Imam Ahmad, chez Tirmidhi, chez Ibn Majah, selon Abi Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyama wa la faqr. » Je suis sayyid, le maître des fils d'Adam, le jugement dernier, sans prétention. « Wa biyadi liwa'u al-hamd » Et par ma main, j'ai l'étendard, le drapeau, « liwa'u al-hamd » le remerciement, « wa la faqr. » « Wa ma min nabiyin yawma idin » Et tous les prophètes seront sous mon étendard ce jour-là. Là, والرسول صلى الله عليه وسلم signe, il persiste qu'il est la meilleure des créatures. Donc, si on trouve des gens, malheureusement, qui disent que c'est pas la meilleure des créatures, c'est un vraiment saut adab, c'est un manque de respect incroyable au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il est la meilleure des créatures, pas consensus chez tous les savants. Et ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas la meilleure des créatures, qu'ils nous disent, c'est qui donc la meilleure des créatures? Parce qu'on trouve des gens, ils disent, non, c'est la meilleure. C'est le meilleur des humains, mais pas des créatures. Nous, on leur dit, comme a dit tous les savants sunnites, c'est la meilleure des créatures. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa habibu rabbil alamin, il est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu da'wati nubuwatin, ba'da nubuwatihi, taghayyun wa hawa. Et toute personne qui prétend avoir reçu la révélation après celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un égarement, c'est de l'ignorance et c'est de la méfiance. Personne n'a le droit de parler de révélation, ni de message, ni de prophétie après celle signée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa al-mab'outh ila 'ammati al-jinn wa kafat al-wara. Donc, Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé aux humains comme il a été envoyé aux djinns. Wa ma khalaqtu al-jinna wa insa illa liya'budun. Dariyat, verset 56. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns. Wa al-janna khalaqnahum min qablu min nari al-samum. Surat al-Hijr, verset 27. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns. Ils étaient sur terre avant les humains. Donc, les humains sont créés d'argile, les djinns sont créés de feu. Et Shaitan, il est d'origine du djinn. Il était grand adorateur. Et tellement il était adorateur, il a été élevé au rang des anges. Mais quelques commentateurs disent que Shaitan, Allah Azza wa Jal, a voulu dévoiler son hypocrisie puisqu'il n'adorait pas Allah Azza wa Jal par sincérité. Il montrait qu'il était un grand adorateur et au fond de lui-même, il avait l'orgueil. Et cet orgueil-là, il a fini par sortir quand Allah Azza wa Jal a demandé, a ordonné aux anges de se prosterner à Sidna Adam. Prosternation de reconnaissance, qu'il est le meilleur. Donc tous ils se sont prosternés sauf à Shaitan. Il a dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile et le feu est le meilleur que l'argile. Donc le mot Anna, moi je suis, le je. Donc on l'a dit, on le dit toujours, c'est le plus grand obstacle qu'il y a entre l'homme et son Seigneur. Et c'est le premier grand péché qui a été commis par la création, la créature, savoir Shaitan. Donc il a dit, je suis meilleur. Je suis meilleur que Adam. Donc les djinns, leurs kuffars, ce sont des shayatins. Donc les détails concernant les djinns, bien sûr c'est un monde, donc on ne connaît pas beaucoup de choses à part ce qui a été rapporté par Sina Rasulullah sallam. Vous pouvez trouver des gens, ils écrivent beaucoup de choses, mais de façon authentique, il n'y a pas vraiment grand chose. Sauf que ce sont des créatures qui peuvent vivre très longtemps, un siècle, deux siècles, trois siècles, voire plus, créées de feu. Ils sont responsables dès leur naissance, c'est pas comme les humains, jusqu'à l'âge de la puberté, eux, dès leur naissance. Sur le mariage entre le djinn et les humains, sur cette question-là, il y a divergence entre les savants. L'imam Malik a parlé de la possibilité d'autoriser. Les autres imams ont dit que c'est pas possible, c'est pas autorisé. Ils ont reçu, il n'y a pas de prophète djinn. Tous les prophètes, ce sont des humains. Et les djinns peuvent être des musulmans, des chrétiens, des juifs, athées, tout comme les humains. Et on a toute une sourate qui parle des djinns. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il les a rencontrés au minimum 6 fois. D'ailleurs, les sahabas ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à un endroit où il leur a dit de rester dans cet endroit-là parce qu'il va apprendre la religion musulmane aux djinns. Les sahabis qui ont rapporté porter ce hadith, on dit, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ne voyait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une montagne, ensuite on ne le voyait pas, il est allé le rapprendre à la religion musulmane. Et on rapporte que parmi les djinns qui ont entendu la lecture du Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a ceux qui sont, font partie des grands chouyours des sciences de lecture et qui sont restés des siècles, qui ont transmis cette lecture qu'ils ont entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux humains et aux djinns. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé aux djinns comme il a été envoyé aux humains. Mab'outh ila 'amati al-jinn wa kaffati al-wara. Non. Wa huwa mab'outh bil-haqq, il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala vraiment par vérité absolue. Wal-huda, afin de guider et de le guider, afin de guider les gens. Wa inna al-Qur'ana. La cheikh va rentrer dans une des plus pertinentes questions de la croyance, à savoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Qur'an, kalamullah. Est-ce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Qur'an Karim, est-il créé ou incréé? Donc la parole est-elle créée ou non? Donc inna al-Qur'an kalamullah ta'ala bada'a bila kayfiyatin qawlan wa anzalahu 'ala nabiyhi wahy. Donc le Coran al-Karim, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée à Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui commence par Sourate Fatiha, qui termine par Sourate Nas, qui nous a été rapportée par chaîne de transmission mutawatir, c'est-à-dire dans chaque, on va dire, mutawatir, c'est-à-dire à chaque étape, hein, chaque génération qui rapporte chaque rang. Donc il y a un nombre important de personnes, que ce soit des compagnons, leurs élèves, les élèves des élèves. Le nombre, il est tellement important qu'il est impossible que qu'il y ait mensonge, qu'ils se mettent d'accord sur un mensonge. Donc, le Coran, il est rapporté par un minimum dans chaque génération, 10, 20, 30, 20, 100, plus. Et nous savons que le Coran Karim a été rapporté d'une génération à une autre par des chaînes, donc, plus authentiques, plus c'est mutawatir. Donc, le muta'abbad, c'est-à-dire, on ne peut prier qu'avec le Coran Karim. On ne peut pas prier avec les hadiths ou autre chose. Le gros verset, le petit verset du Coran Karim, défie l'humanité, que ça soit dans son comment il est formulé, syntaxe, le rime, etc., mais aussi de ce qu'il porte, de ce qu'il regorge, de asrar, de choses mystérieuses, de mu'jizat, c'est-à-dire de miracles. Aujourd'hui, on parle de miracles scientifiques. Donc, l'humanité est devant un défi depuis la révélation du Coran jusqu'à aujourd'hui. Elle est incapable d'apporter ne serait-ce un verset dans son éloquence, dans sa façon comment il est construit, dans sa syntaxe linguistique et aussi dans l'information qu'il nous apporte, plus c'est la jurisprudence, plus il y a de l'histoire, plus il y a ça parle du monde de l'au-delà, puisqu'il y a l'argumentation rationnelle, et puisque ça parle aussi de miracles scientifiques, et ça il informe aussi de ce qui va se passer, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Tout cela dans une construction linguistique homogène, du premier verset au dernier verset. Parce que les humains, quand ils écrivent des textes, on sait qu'à un moment donné, elle varie, elle peut s'affaiblir, elle peut changer de temps, etc. Mais par intérim, il n'y a aucun changement. C'est le même rythme, c'est la même force, vocabulaire, linguistique, syntaxe, information, du début jusqu'à la fin. Et jamais un être humain n'a pu apporter ne serait-ce deux, trois mots comme la force du Coran de ce que je viens d'avancer. Donc il reste un défi à l'humanité et il va défier toute l'histoire de l'humanité dans son sens, c'est-à-dire chaque époque, l'humanité elle est forte dans un domaine précis et la force de l'humanité dans un domaine précis, le Coran viendra défier l'humanité dans son temps et dans son espace qu'elle prétend aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui c'est un monde de technologie, de découverte. Le Coran al-Karim il vient nous lancer des défis dans le monde technologique que nous prétendons aujourd'hui. Le Coran aujourd'hui parle de l'expansion de l'univers. Ce sont des découvertes scientifiques nouvelles que l'homme d'aujourd'hui a découvert avec les grands appareils, télescopes, Hubble, etc. Il parle des choses microscopiques, telles que la Terre. Il parle des vagues qui se trouvent dans le fond des océans que juste l'humanité vient de découvrir. Comment un personnage comme Sidna Rasulullah qui vit au fond du désert, qui n'est pas habitué à la mer, peut parler des choses qui se trouvent dans le fond des océans. Il parle le Coran parle de l'évolution du fœtus avec des détails incroyables que seuls les grands appareils d'échographie ont pu découvrir aujourd'hui. Donc, toutes ces découvertes scientifiques que quelques-uns ont récoltées, ont dénombré au nombre de 1000, hein, vous avez les 1000 vérités scientifiques du Coran, un ouvrage intéressant à lire, nous renvoie que le Coran Karim, c'est un texte de révélation, c'est un texte qui nous lance un défi, qui nous laisse à croire absolument avec une vérité, une certitude absolue qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, inna al-Qur'ana kalamullahi ta'ala, c'est la parole de Allah ta'ala, bada'a bila kayfiyatin. Donc, il a commencé sans comment. Et la question du sans comment, nous allons la trouver toujours pour le Qur'an al-Karim. Quand on parle de la croyance, tout ce qui concerne Allah ta'ala, le comment concerne l'être humain. Comment il mange, comment il s'assoit, comment il bouge, comment. En ce qui concerne Allah Azzawajal, bila kayf. Vous voyez que l'imam Tahawi dit bila kayfiyatin. Donc à ceux qui disent que Allah Azzawajal il a un comment, sauf que on ne le connaît pas, voilà que l'imam Tahawi le répond clairement. Il dit bila kayfiyatin. Donc Allah Azzawajal n'a pas de comment, que ce soit dans sa parole, que ce soit dans ses actes, que ce soit dans son essence. Qawlan, donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme la nôtre. La nôtre, c'est des mots qui se succèdent, qui sont dans un temps et dans un espace, c'est des ondes, etc. Allah Azza wa Jal, laisse comme il l'a dit dans cette sourate, rien ne lui ressemble, ni dans son essence, ni dans ses actes, ni dans ses attributs. Donc, tout ce que on peut qualifier l'être humain, Allah Azza wa Jal est exemple de cette qualification. Wa anzalahu ala nabiyhi wahyan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran Karim, wahyan, c'est une révélation. Et cette révélation, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, c'est une révélation lourde de ce qu'elle comporte, de savoir, lourde de connaissances, lourde de conséquences. Mais qui peut porter cette chose lourde, c'est le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a été préparé à cela. Donc, la révélation, bien sûr, un ange Allah a spécifié, pour la révélation, c'est Sayyidina Jibril alayhi salam. Wa saddaqahu al-mu'minuna ala dhalik. Donc, les croyants ont cru à cette révélation, à ce Coran, bien sûr, qui a été révélé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'ange Sayyidina Jibril alayhi salam, il a ordonné de porter le Coran Karim et de le transmettre à Sidna Rasulullah. Et les Sahaba qui assistaient au moment de la révélation du Coran Karim, voyez le changement, voyez comment le prophète sallallahu il le voyait, comment il devient rouge, c'est-à-dire, ça se voit qu'il reçoit quelque chose de très 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 fort, la sueur, on voit sur lui, etc. Wa saddaqahu al-mu'minuna 'ala dhalik. Donc les croyants ont cru à cette révélation de Sidna Rasulullah. C'est une certitude, c'est une croyance absolue. Kalamullahi ta'ala bil haqiqa. Donc, ils ont cru que c'est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, contrairement à ceux qui disent que Allah Azza wa Jal, quand il parle, comme si, ils disent que Allah Azza wa Jal, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à Sayyidina Moussa, c'est pas de la révélation. C'est le texte qui parle de la révélation qui est une révélation. Donc, la parole d'Allah, Azza wa Jal, n'est pas que le Coran. Donc, ce qui est dans le Coran, c'est la révélation. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui parle dans le Coran n'est pas la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, les textes qui ont été révélés aux autres prophètes n'ont pas été révélés aux prophètes. bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît leur contenu, connaît leur sens, tels que la Torah, les évangiles, le psaume, etc. On parle de textes originaux avant, on va dire, que la main de l'homme ne les touche, avant la falsification. Donc, dans leur origine, ce sont des textes originaux. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, quand on récite le verset, wa kallama Allahu Musa taklima, ça, ce verset-là, il nous a été rapporté par le Coran, donc c'est de la révélation. Mais quand Allah Azza wa Jalla a parlé à Sidna Moussa, cela, bien sûr, c'est de la révélation. À Sidna Moussa. Et c'est une parole que Sidna Moussa a entendue. Alors, Sidna Moussa est un être humain. Comment un être humain peut-il, c'est une créature, comment peut-être cette créature, comment elle peut entendre une parole éternelle? On l'a toujours dit, il faut suivre les cours Barakulafikon, parce que les cours se succèdent. Ce qu'on dit dans un cours, on ne peut pas le répéter dans d'autres cours. Alors la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à Sayyidina Moussa, c'est qu'Allah Azza wa Jal a levé le voile de sa parole éternelle pour que Sayyidina Moussa, juste lui, il a levé le voile à Sayyidina Moussa, pour que quand on dit le voile, ce n'est pas un voile matériel. D'accord? Qui lui permet d'entendre sa parole. Mais entendre sa parole à un moment donné, précis. Pas éternellement. Puisque la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni début ni fin. Le début et la fin et la classification et, on va dire, la chronologie et le temps, c'est pour les humains. Donc Allah Azza wa Jal a levé le voile pour permettre à Sidna Moussa d'entendre sa parole qu'Allah Azza wa Jal a voulu lui faire entendre. Ma'alish, même si vous l'avez compris, j'explique pour les autres aussi. Inch'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Donc, comme les musulmans et les croyants, comme on va le voir dans le texte qui va venir, les musulmans verront Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Alors, les uns, ils vont dire, les mu'tazilites, ils ont dit, comme on va le voir, inch'Allah, comment peut-on voir Allah azza wa jal sans le localiser? Eh bien, Allah azza wa jal, ala kulli shay'in qadir. L'imam Abu Hassan Ash'ari, il a dit, quand vous voyez des choses dans un miroir, répond Mu'tazili, vous voyez des choses dans un miroir, ces choses-là peuvent bouger, c'est pas pour autant que si vous touchez, vous allez toucher qu'un miroir, donc elles ne sont pas localisées. Juste un exemple, si des choses qui peuvent se passer dans cette dunya de cette façon, alors que des donc le jugement dernier, Allah Azza wa Jal, pour lui permettre leur permettre de le voir. Comme il a permis à Sidna Moussa d'entendre sa parole, il lui a levé le voile. Donc c'est une parole éternelle qui a été entendue tout par tout le corps de Sidna Moussa, pas seulement par ses oreilles. J'insiste sur cela parce qu'on a aujourd'hui quelques groupes, quelques sectes qui disent que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à Sidna Moussa, elle est créée. Cela est contraire à la croyance et à la foi sunnite. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à Sidna Moussa, elle est éternelle. C'est les élites qui disent qu'elle est créée. Donc ceux qui se disent salafis aujourd'hui ont cette croyance, malheureusement, qui est complètement à côté de c'est-à-dire à côté de la plaque, elle ne concorde pas à la croyance humaine. Elle est complètement identique à celle des Mu'tazilites. Donc il faut faire attention à cela. Allah nous guide et nous guide. Alors, قال الشيخ رحمه الله تعالى. Non, il n'y a pas l'attribut de la voix, il y a l'attribut de la parole. Il n'y a pas l'attribut de la voix. Faut revoir un peu les cours sur Islama, vous avez tous les détails dans les cours de... Il n'y a pas l'attribut de la voix. Il n'y a pas la voix, c'est pour l'être humain. Il y a l'attribut de la parole. Pas la voix. D'accord, Inch'Allah. Barakallah. Donc, قال الشيخ رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. Donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans comment, wa anzalahu ala rasulihi wahyan, c'est une révélation. Wa saddaqahu al-mu'minuna ala dhalika haqqan. Wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati, laysa bi makhluqin ka kalam al-bariyya. Voilà, l'imam al-Tahawi le dit clair, net et précis. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne ressemble pas ليس بمخلوق، أن نباكري لا بارول دالله نباكري، أن كلام الله تعالى بالحقيقة لا بارول دالله سبحانه وتعالى كلامه لا بارول دالله سبحانه وتعالى، أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، نباكري كوم إكري لا بارول ديز إيمان. Alors ceux qui se disent, soi-disant, ils suivent Imam Tahawi, ils font des commentaires, ils sont. Un jour, Inch'Allah, on va spécifier toute une journée, une ou deux séances, juste pour refuter ceux qui ont fait des commentaires sur la Tahawiya et qui sont à l'opposé de ce que l'imam Tahawi a dit, le commentaire d'Ibn Abiz al-Izz al-Hanafi, le commentaire de Sheikh al-Albani, rahmallah, le commentaire d'Ibn Baz, rahmallah, le commentaire de l'Utami, rahmallah. Tous ces commentaires-là, malheureusement, à des moments vraiment donnés, ils sont vraiment à l'opposé de ce que dit l'imam Tahawi, ou bien Sheikh al-Fawzan. Nous allons revenir sur tous ces passages-là et vous allez voir comment l'imam Tahawi dit une chose et eux, ils disent le contraire de cette chose-là, malheureusement. Avec tout le respect qu'on leur doit, bien sûr. Alors, on continue, Inch'Allah, avec ce qu'a dit Al-Sheikh, rahimahullah ta'ala. Laysa bimakhlouqin ka kalam al-bariyya. Donc, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une voix, ce n'est pas des lettres. Donc, c'est une parole éternelle. فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Alors, celui qui entend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est une parole d'être humain, est considéré comme écrit. Et là, c'est une réponse à ceux qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. Ça, c'est une parole d'être humain. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, puisque vous dites c'est une parole d'être humain, alors ramenez-moi un verset. Ramenez-nous un verset, puisque c'est une parole d'être humain. Il les défie. Comment le Coran peut-il une parole d'être humain? Et on a toutes ces informations d'histoire, de religion, d'astronomie, de géologie, de médecine, de sciences des mers, et des détails qui concernent la jurisprudence, de la politique générale, de la gestion de l'État, jusqu'aux choses de détail, fin de détail, comment l'être humain peut rentrer aux toilettes. Donc tout ça, c'est un schéma de jurisprudence globale qui a, qui gère la vie de l'homme dans tous ses fins de détail, politique, sociologique, communication, etc. Donc celui qui prétend que cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est une parole d'être humain, c'est-à-dire il remet en cause que c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il devient mécréant. قَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَابَهُ أَوْعَدَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a ذَمَّهُ, c'est-à-dire il l'a attaqué, diminué, remet en cause, c'est-à-dire il l'a rabaissé. وَعَذَابُهُ حَيْتُ قَالَ سَأُصْلِهِ سَقَرَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala عَابَهُ أَوْعَدَهُ. نعم. Allah عز وجل a dit سَأُصْلِهِ سَقَرَ. Cette personne rentrera, donc le Mudaffir, verset 26, cette personne rentrera en enfer. Saqar, c'est l'un des noms des enfers. L'enfer, c'est le feu qui, c'est une des catégories de feu qui sera destiné au kuffar le jugement dernier. سَأُصْلِهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَوَاحَةٌ الْبَشَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ عَلَيْهَا إِلَّا عَشَرَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. Parce que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il restait au Coran al-Karim, ils disent in hadha illa qawlul bashar, ce n'est que la parole d'être humain. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il est défi, il dit, puisque c'est la parole d'être humain, alors ramenez-moi 10 versets, ramenez-moi 2 versets, ramenez ne serait-ce un seul verset qui sera à la même hauteur linguistique, grammaticale, syntaxe, scientifique, politique, juridique, croyance, historique de Coran al-Karim. Parce que dans un même verset, vous allez trouver tout ce que je viens de vous dire. La yushbihu qawl al-bashar. Donc, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble aucunement à la parole des humains. فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه اوعده بسقر حيث قال تعالى ساصلي سقر فلما اوعد الله بسقر لمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا وايقنا انه قول خالق البشر. Nous avons la certitude qu'il s'agit de la parole de celui qui a créé les humains. وَلَا يُشْبِهُ قَوْلِ الْبَشَرِ Il ne ressemble pas aux paroles des humains. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنَنِ الْمَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ Et celui qui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala un attribut des humains, il devient mécréant. Très attention. Donc, de ne pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez que l'imam al-Tahawi ici, il est intransigeant sur cette question-là. Nous n'avons pas le droit d'attribuer à Allah azza wa jal, le créateur, des qualificatifs de la création. Alors, vous allez trouver des gens par ignorance, ou pauvres, il a entendu dans un cours, ou dans, surtout qu'aujourd'hui, la religion, elle est devenue comme un supermarché. On va dans les sites internet, on va dans les librairies, dans les bibliothèques. Dès qu'on voit quelqu'un qui a une belle barbe, un bon camis, il parle bien l'arabe, on prend ce qu'il dit. Et malheureusement, même s'il contredit la Oumma historiquement et géographiquement, la Oumma depuis des siècles a dit des choses et on trouve des gens aujourd'hui, il te dit Allah il a une main, Allah il a un pied, Allah il sourit, Allah il descend du ciel, Allah il est il court. Allah, il est dans le ciel, il est assis sur son siège. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si tu vois un dessin animé. C'est un dessin animé. Quand tu vois le Goldorak ou le Allah, n'est pas comme ça. A'oud billah. Parce que c'est les humains qui bougent, qui s'assoient, qui rigolent, qui ont une main, qui ont un pied. Ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira. Comme a dit Cheikh rahma Allah, wa man wara Allah ta'ala bima'nan min ma'ani al-bashar faqad kafar. Faites très attention à ne pas qualifier Allah subhanahu wa ta'ala ces attributs qui sont des qualificatifs, des attributs d'humains. Allah azza wa jalla, nous n'avons droit de l'attribuer que ce qui s'est attribué avec une connaissance de la croyance. Tous ces attributs, c'est des attributs de perfection. Même ce qui nous paraît à nous comme des qualificatifs, on va dire positif, tel que l'intelligence. Nous n'avons pas le droit de dire que Allah est intelligent. Ça, c'est pour la créature, pas pour le créateur. فَمَنْ أَبْصَرَ وَاعْتَبَرْ وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرْ وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَ صِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرْ Et celui qui a une conscience, et celui qui a un cœur, et celui qui réfléchit très bien à être reposé, à être posé avec une intelligence, avec une sincérité, comprendra qu'Allah subhanahu wa ta'ala est complètement différent de la créature et des humains. Il est différent, c'est pas en croyant, parce que ceux qui disent, par exemple, quand on lit le Coran Karim, Yadullahi fawqa aydihim, on nous traduit Yadullahi fawqa aydihim, la main d'Allah est au-dessus de leur main. Déjà, Allah il a dit Yad, il n'a pas dit main, car le mot Yad en arabe, il a plusieurs sens. Et le mot main en français, il n'a pas plusieurs sens. 3-4, mais en arabe, plus que cela. Et quand on dit la main du président, elle est longue, ça ne veut pas dire qu'elle a 3 mètres. Il peut être un manchot, hein, le président peut être un manchot, mais on dit sa main, elle est longue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a un pouvoir, c'est-à-dire qu'il est fort, c'est-à-dire qu'il peut faire beaucoup de choses, qu'il a de la puissance, etc. Walillah il-matala. La métaphore, elle est très utilisée pour le Coran Karim, et les salafs, les musulmans des trois premiers siècles, ont bien compris le message coranique dans son sens métaphorique, puisque leur langue. Aujourd'hui, malheureusement, après les trois premiers siècles, la langue arabe s'est affaiblie, donc il a fallu donner l'interprétation, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle at-ta'wil at-tafsili, c'est-à-dire aller dans le détail de l'interprétation pour expliquer qu'est-ce qu'a voulu Allah Azza wa Jalla dire quand il a dit Yadullah Iqaqaidim, il s'agit de la puissance, de la force d'Allah qui est au-dessus de leur force. Donc, quand on parle de mal, parce que les uns disent, bon, écoutez, Allah il a une main, vraiment il a une main, vraiment, ils disent vraiment, al-haqiqa, mais on sait juste, on sait pas comment elle est. Elle a un comment, mais on sait pas. C'est-à-dire, c'est une main d'éléphant, c'est une main de fourmi, j'ai entendu ceux qui disent ça, juste on sait pas. Mais, dans sa tête, c'est une main. Il y en a un autre qui a dit, mais non seulement une main, puisqu'elle a des doigts, et une main avec des doigts, elle est faite que pour prendre des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est, je parle pas des petits frères dans les salons, je parle de leur chouyour, que j'ai entendu de mes propres oreilles, qu'Allah les punit, et qu'Allah les guide, inshallah ta'ala. Donc, je vais me limiter, inshallah ta'ala, parce que ce que va traiter après Cheikh, c'est une autre question. Cette question de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il y a un grand imam, à savoir l'imam. Je terminerai par l'histoire de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, puisqu'il a eu une grande épreuve avec les Mu'tazilites. Cette grande épreuve, avec les Mu'tazilites qui sont arrivés au pouvoir à l'époque de Ma'moun, et que les Mu'tazilites, c'est une secte, c'est un groupe musulman qui ont dit que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est créée. Alors, l'imam Ahmad rahmallah, l'imam de Ahl-Sunna à son époque, leur a fait face et ils l'ont torturé, ils l'ont frappé, il a failli perdre la vie, puisque déjà lui il était maigre, il a failli mourir, hein. Ils l'ont attaché avec des chaînes très lourdes, ils le traînaient, ils le ramenaient au château pour faire des débats avec lui, et à chaque fois qu'on le ramène, il fait des débats, il avait le dessus de tous les Mu'tazilites qui étaient là, et l'imam Ahmed. Il y a l'imam Shafi'i rahmallah qui avait un rêve, comme le rapporte l'imam Ibn al-Jawzi, le grand Hafez Hanbali, dans son ouvrage Manaqib Imam Ahmad, dans son Manaqib Imam Ahmad. Il le rapporte d'ailleurs par chaîne de transmission jusqu'à l'imam Rabi' Ibn Sulayman. Il dit, c'est l'imam Ibn al-Jawzi qui dit, l'imam Shafi'i a vu un rêve et il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, l'imam Shafi'i lui a dit à l'imam Ahmad qu'il va avoir une grande épreuve. Et que cette grande épreuve-là, des gens vont faire pression sur lui pour dire que la parole d'Allah est créée, dis lui de résister, de ne pas céder et de dire que la parole d'Allah est éternelle. Alors, l'imam Shafi'i, il a envoyé un courrier à travers l'imam Rabi' Ibn Sulayman, hein, un courrier, il a adressé de l'imam Shafi'i à l'imam Ahmed, puisqu'ils se connaissaient entre eux, il y avait des correspondances, ils se sont même rencontrés. Il se respectait énormément. L'imam Ahmed, quand il a reçu le courrier de l'imam Shafi'i, il a été très très content, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à l'imam Shafi'i de lui. Il a souri, il a retenu le livre et il a compris qu'une grande épreuve l'attend. Et effectivement, les Mu'tazilites ont essayé de faire pression sur lui. Parce que si l'imam Ahmed dit que la parole d'Allah azawajal, elle est créée, c'est fini. Toute la position sunnite va basculer et tous les sunnites vont dire la même chose. Alors, il a résisté, alhamdoulilah, après 2 années de torture, de résidence surveillée, les Mu'tazilites, après, ils ont cédé et que les élèves de l'imam Ahmed ainsi que tous les Ash'arites ont pu faire face à cette fitna des Mu'tazilites et ils ont effacé de l'histoire, à part quelques petits Mu'tazilites qui sont apparus aujourd'hui, sans grand. C'est un moment, ça fait rire. Hein. Donc l'imam Ahmed, en récompense à l'imam Rabi' ibn Sulayman, il lui a donné son qamis, il l'avait sur sa peau, hein, il l'avait sur sa peau, comme récompense, puisqu'il a ramené la bonne nouvelle, le bouchra. Quand l'imam Rabi' ibn Sulayman a revu l'imam Shafi'i, il lui a donné ce courrier-là, il lui a dit, alors, tu as rencontré l'imam Ahmed, tu as dit ce que je t'avais dit. Il lui a dit, oui, je l'ai vu. Il lui a dit, alors, il t'a donné quelque chose? L'imam Shafi'i qui lui dit. Il lui dit, oui, il m'a donné une chose, mais je ne la donne pas. Alors, l'imam Shafi'i lui a dit, d'accord, je ne vais pas te priver de ce que l'imam Ahmed t'a donné, mais est-ce que tu peux me la prêter? Je te la rends. L'imam Rabi' Ibn Sulayman lui a dit, oui, je peux te la donner. Il lui a donné, donc, le qamis de l'imam Ahmed. Qu'est-ce qu'il a fait, l'imam Shafi'i? Il a lavé ce qamis-là, il s'est douché, il a bu l'eau, tabarrokan de l'imam Ahmed. Il lui a rendu le qamis. Donc, l'imam Shafi'i fait tabarrok avec le qamis de l'imam Ahmed. Cette histoire, elle est rapportée par l'imam Ibn Jawzi, elle est rapportée par beaucoup d'autres savants. Il la rapporte l'imam Ibn Jawzi dans Manaqib Imam Ahmed par chaîne de transmission jusqu'à l'imam Rabi' Ibn Sulayman. Regardez, subhanallah, le respect qu'il y a entre ces grands imams, la modestie de l'imam Shafi'i est fait tabarruk par le qamis de l'imam Ahmed Ibn Hanbal. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi'ilmi ha'ula'i al-ulama' al-a'lam. Qu'Allah nous donne du savoir, de la connaissance, de la modestie. Et qu'on soit, inshallah, qu'on honore cette belle religion qui est une religion de respect de l'autre surtout. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واكتبنا مع الراشدين. اللهم لا تحرمنا لقاء الحبيب في الدنيا قبل الآخرة. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. نسالك اللهم ان تفقهنا في الدين وتعلمنا التاويل. اللهم من اراد بالاسلام خيرا فوفقه، ومن اراد بالاسلام شرا فاجعل تدبيره في تدميره. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، تجعل الحزن اذا سهل شيء سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا الحكمه والعلم والدين. يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا مدهما، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما، نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما، واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحماء، وسألنا اللطف منك عاجلا يا كريم أنت الرب الكرماء، وتجب منا دعانا كرما يا حليم أنت رب العلماء. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما كما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستس الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة نفس بعدد كل من. بارك الله فيكم وفي الحاضرين، وجزاكم الله عن الإسلام كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله prochain réunion d'ici là أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Juste en réponse au frère ou bien à la sœur, bah, Allah a créé les cieux et la terre. Non, les questions, normalement, c'est dans la rubrique, parce que, comme je le dis toujours, si vous avez des questions qui concernent le cours, il faut les poser, Inch'Allah, Jazakallah Khairan. On a une rubrique spécifique à la commentaire de la Tahawiya. Vous allez trouver tout cela dans le ensuite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, il n'a pas dit ensuite, il a dit Thumma. Faites attention, la traduction traduire c'est trahir, mes chers frères, traduire c'est trahir. Le thumma, ça ne veut pas dire ensuite, ça veut dire quand on, bien sûr, pour rapprocher la compréhension, le mot thumma veut dire en arabe aussi, ou bien en même temps, ou bien et. D'accord? Donc, vous remarquez que le mot n'a pas le même sens, il n'y a pas de temps, c'est-à-dire, c'est pas qu'il a créé, ensuite il est allé créer autre chose. Jazakallah khairan, assalamu alaykum. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Il ne faut pas que ça vous perturbe. Il faut avoir la certitude et la croyance et la foi en Allah Subhanahu wa Ta'ala que le temps et l'espace s'appliquent sur la créature, ne s'appliquent pas sur le créateur. Donc, celui qui a créé le temps, celui qui a créé l'espace, ne s'applique pas sur lui, le temps. Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ça ne veut pas dire que le temps est appliqué sur Allah. Juste pour nous apprendre que Allah Azza wa Jalla, quand il dit à une chose soit, elle est ainsi, mais il l'a créée pour nous dans nos calculs à nous, dans 6 jours, pas pour le calcul d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon lui il dit à la chose soit et elle est ainsi, pour nous apprendre que les choses se font avec le temps, du mois, etc. Votre question n'est pas claire. Quand nous disons par exemple Masha'Allah, ce qu'Allah veut, peut-on le dire quand une personne devient mécontent par exemple? Non, le problème là, ça veut dire là Masha'Allah, c'est une expression parce qu'en arabe attendez. Vous avez posé cette question, je vais vous répondre, Inch'Allah. Vous avez terminé votre question. Parce que là, vous êtes en train de répondre en même temps. Voilà. Si vous avez terminé la question, il ne faut pas répondre. C'est comme si vous allez me donner la possibilité de... C'est-à-dire, je vais choisir entre ceci et cela. Non, Inch'Allah. Alors, le mot, Masha'Allah, En arabe, ma sha Allah min khaliq, ma sha Allah min mubdi', ma sha Allah min muhsin, ma sha Allah. D'accord? C'est-à-dire, il y a en arabe, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque, mais un sous-entendu, on le dit pas, mais en arabe, ça passe. D'accord? On le dit pas pour quelqu'un qui. C'est comme si tu dis Allahumma barik. Oh, c'est comme si tu dis, oh, quelle baraka, oh, quelle grandeur, oh, d'accord? On ne le dit pas pour le péché. Bien que c'est Allah qui crée l'acte, mais bien sûr. Mais on ne fait pas, c'est comme si on fait l'éloge indirectement de celui qui fait le péché. Au contraire. On dit, a'oudou billah. On ne dit pas, masha'Allah. On dit, a'oudou billah. Pourquoi? Parce que l'acquisition vient de l'homme. Allah Azza wa Jal n'est pour rien. Il ne lui a pas imposé cela. L'homme est allé chercher cet acte créé par Allah Azza wa Jal. Pourquoi il est allé le chercher? Parce qu'il l'a voulu, il a tout fait pour qu'il soit fait, qu'il soit acquis, il lui reste que la création, Allah lui, le lui crée. Mais sinon, la décision, la pensée, la réflexion, le vouloir, c'est l'homme qui est allé, il ne reste que la création, et puis l'homme, c'est pas un créateur, Allah lui crée, et l'homme acquis l'acte. Donc, l'acquisition vient de l'homme, et la création vient d'Allah. On ne peut pas dire Masha'Allah, on dit Masha'Allah pour les bonnes choses, pour qualifier les choses qu'il y ait de la baraka, etc. C'est comme si on dit, oh Allah, fais la baraka dans cet acte de péché. Or, on n'a pas le droit. On demande à Allah qu'il y ait de la baraka dans les actes, les bons actes. Wallahu ta'ala alawa. Alors, la question, Sidi Abdurrahman, peut-on dire pour quelque chose de négatif, Masha'Allah, non, quelque chose de négatif, si c'est dans le sens Masha'Allah ou Kan, bien sûr, Masha'Allah ou Kan, Wama lam yasha' lam yakun, ça, oui, c'est-à-dire ce que Allah a voulu, il y est, ce qu'il ne veut pas, il n'est pas. Masha'Allah ou Kan, hada ja'iz, yajouz. D'accord. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, on relie le Masha'Allah, pas dans le sens de l'acte péché, mais dans le sens de la création par Allah subhanahu wa ta'ala. Que la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa créature, sa création touche toute chose. Là, oui. Mais pas dans le sens où Masha'Allah, quelle belle chose pour le péché. Non. Nous allons, Inch'Allah, fermer le salon. Jazakallahu khayran. بارك الله فيكم نلقى إن شاء الله